Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous demander de prendre place. On va commencer sans tarder. Alors. Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Welcome everybody. Je suis Bruno Rebelle, directeur de transition qui accompagne des territoires et des entreprises vers un monde plus durable. Et nous avons participé à l'organisation du World Summit on Climate and Territories en juillet, le sommet mondial climat et territoire en juillet. Et j'ai le plaisir et l'honneur de faciliter cette nouvelle table ronde, cette nouvelle session de travail où on va faire le point de ce qui s'est dit à Lyon, mais aussi mettre en projection ce que l'ensemble des coalitions qui se sont mobilisées en préparation de Lyon, à Lyon et depuis Lyon, vont continuer à faire au-delà de cette COP 21. Et sans attendre, je vais inviter Bernard Soulages, vice-président de la région Rhône-Alpes et co-organisateur du Sommet mondial climat et territoire de Lyon, à nous dire quelques mots d'introduction. Bernard.
Merci à vous tous d'être venus. Je sais qu'il y a, pour avoir franchi les contrôles à l'instant, il y a encore beaucoup de monde dehors, et comme en plus tout le monde ne peut pas passer trop rapidement, on va être rejoints, y compris d'ailleurs par des intervenants, parce que la machine se rôde. Et elle n'est pas encore complètement rodée pour l'accueil d'aussi nombreuses personnes dans une situation de la France que vous connaissez tous. Et c'est, je pense que vous comprenez tous qu'il soit indispensable d'avoir monté le niveau de protection là où il est, même si ça présente quelques désagréments pour certains d'entre nous. Et voilà, on essaye de faire en sorte. Et le deuxième inconvénient de tout cela, c'est qu'une séquence qui était prévue sur 3 heures a été réduite à 1h30. Donc on est obligé de commencer à l'heure et d'être tous très courts, mais c'est le lot, malheureusement, de la situation de notre pays qui a fait cela, et nous sommes obligés de travailler rapidement. Donc je vais aussi être le plus bref possible, d'abord pour vous accueillir. Vous êtes très nombreux, les amis qui étaient déjà à Lyon. Beaucoup n'ont pas pu venir aujourd'hui, certains viendront plus tard, mais nous avions souhaité avec Ronan faire cet événement dès aujourd'hui pour l'inscrire dans une dynamique. Et l'objectif n'est pas simplement de délivrer des discours, mais de s'inscrire dans une dynamique que, avec vous tous, nous avons créée à Lyon, mais aussi ailleurs. Je voyais avec mon ami David Hortel, hein, nous avons travaillé à Toronto, nous étions aussi avec des amis qui sont ici présents à Bogota, d'autres étaient à Yamoussoukro pour le sommet de l'Afrique, et nous serons rejoints tout à l'heure par Patrick Klugman, l'adjoint au maire de Paris, qui pilote la journée du 4. Ce que nous voulons, c'est continuer cette dynamique tous ensemble, parce que nous avons une parole commune avec tous les grands réseaux. Et je remercie tous ceux qui ont fait l'effort au moment de Lyon et encore aujourd'hui de se dire, bon, chacun a son activité, tous les grands réseaux, et beaucoup d'entre nous, je voyais nos amis catalans aussi, là, très présents, on est pareil, dans 4-5 réseaux, mais on fait cet effort à un moment de tous parler d'une même voix. Et donc, c'est pour cela qu'avec Ronan, nous vous avons proposé de vous retrouver dès aujourd'hui, parce que derrière, il y a le sommet de Paris. Parce que derrière, il y a l'Action Day vendredi, puis derrière, il y a le Subnational Day le 8, et enfin le texte de la négociation. Et très honnêtement, les choses vont bien, mais elles ne sont pas définitivement actées sur notre rôle à tous, société civile, collectivité, ONG. Nous avons des avancées. La plus formidable, et on la doit aux Canadiens, ça a été notre grande surprise à Bonn, c'est que ce rôle est maintenant reconnu dans le préambule. Grâce à un amendement canadien qui ne fait pas l'objet de bracket. Donc pour l'instant, il n'est pas remis en cause. Donc nous avons notre place dans le préambule. C'est un point très important. Mais il reste la suite. Et il reste la question de qu'est-ce qu'il y a dans le Workstream 2, qu'est-ce qu'il y a dans les financements, qu'est-ce qu'il y a dans la poursuite du Lima Paris Action Agenda. C'est ça que nous voulons mettre au cœur de la discussion pour montrer nos engagements. Et Paris, le sommet de samedi, aura encore des annonces qui iront au-delà même des annonces de Lyon, de Toronto, de Bogota ou de Yamoussoukro. Mais il y a aussi derrière la nécessité qu'on nous reconnaisse pleinement. Et moi, je vous le dis très rapidement, parce qu'à un moment, comme je le disais hier soir, je le dis à David, à votre ministre de l'Environnement que j'ai rencontré hier soir, comme je l'ai dit à Carole Dichbourg aussi, la ministre de l'Environnement du Luxembourg, qui est la présidence de l'Union européenne, il faut que nos amis dans les gouvernements entendent cela. Et je vous demande pendant cette semaine au sens entre aujourd'hui et le 9-10, la séquence ministérielle, d'en parler à tout le monde, à tous nos amis. Il faut que ce qui est déjà dans le texte, y reste, et il faut que ce que nous allons proposer ici, mais aussi vous dans d'autres déclarations, à travers les réseaux, à travers le sommet de Paris, il faut que ça rentre dans les têtes, mais dans les textes aussi. Je sais que des pays comme la Colombie, le Mexique, le Canada, la France aussi, vont porter cela, parce que c'est déjà un peu dans l'agenda, mais il faut que l'Union européenne, nous avons des alliés dans des blocs, comme au niveau de l'Amérique latine, mais il ne faut pas que ça bute comme ça avait buté à Lima. Nous sommes quelques-uns à avoir été à Lima. Jusqu'au dernier jour, nous avions pensé que nous allions gagner sur la place et sur l'avancée des réseaux. Et puis, le dernier jour, vous le savez comme moi, patatrac, le texte recule. Donc, nous avons cette volonté. Elle s'appuie, et c'est très important, sur nos engagements. Nos engagements doivent être complémentaires des engagements des États et parfois même intégrés. Mais elle s'appuie aussi sur nos propres revendications. Et c'est légitime. C'est légitime que nous, les organisations de la société civile, nous soyons au travail. Voilà ce que nous avons essayé de faire depuis Lyon. Évidemment, Ronan parlera aussi de la déclaration et du sommet de Nantes qui prendra la suite. Mais je voulais encore une fois vous remercier d'être là ce matin. Dans ce court moment, nous allons essayer d'avoir à fois le retour des ateliers, une table ronde avec les grands acteurs et donc cette déclaration qui nous permettrait d'avancer tous ensemble. Merci et bonne matinée.
Merci beaucoup, Bernard Soulages. Alors, on va avoir un premier temps de travail où vous allez avoir une restitution des différentes coalitions d'acteurs qui se sont mis en mouvement à Lyon. Désolé pour le format, parce que ça va être une succession de prises de parole très courtes de 2 minutes. Mais comme vous l'avez compris, on a dû raccourcir du fait des nouvelles conditions de sécurité. Je vais tout de suite appeler Roland Gérard, qui est co-directeur du réseau École Nature et co-président. Avant ça, je signale que l'intervention suivante sera en espagnol. Elle sera traduite en français et en anglais. Mais ceux qui ne sont pas hispanophones, vous avez la possibilité d'avoir des casques de traduction qu'on va vous faire passer. Vous n'aurez pas besoin de vous lever. On va vous amener directement des casques. Vous demandez juste aux hôtesses de vous les fournir. Roland Gérard, vous avez 2 minutes.
Merci. Bonjour. Donc l'éducation à l'environnement, vraiment en 2 mots, c'est deux versants. Un versant, notre relation à la nature, qui doit être nouvelle, qui doit être riche et positive. Et deuxième versant, la préparation de toutes les personnes à la co-construction. Et c'est la participation citoyenne. Aujourd'hui, ce qui se passe, on arrive à un moment de maturité de l'éducation à l'environnement. Les acteurs se sont mis en réseau. Les acteurs se sont formés en collectif. Et aujourd'hui, le mot-clé au cœur, c'est la concertation. La concertation avec l'ensemble des parties prenantes, c'est ce que nous vivons à l'espace national de concertation de l'éducation à l'environnement et au développement durable en France, depuis les deuxièmes assises de Caen, où on va trouver donc les ministères, les collectivités, les associations, les syndicats, les entreprises, les universités, des artistes et aussi les acteurs des autres niveaux, c'est-à-dire les acteurs des régions, dans les espaces régionaux de concertation, et maintenant on a aussi des espaces départementaux de concertation. Voilà, nous sommes à l'heure de la concertation, nous sommes dans le dialogue, nous sommes à la construction d'une culture commune, de l'éducation à l'environnement entre nous tous. Ces dynamiques existent en France, elles existent aussi dans d'autres pays. Partout, c'est le dialogue pour une éducation à l'environnement et au développement durable plus solide et mieux construite et plus présente dans la vie de tous les territoires. On a donc aujourd'hui un réseau européen qui est en train de se construire. On a créé un manifeste pour une éducation à l'environnement en Europe, que vous pouvez trouver facilement. On a la dynamique du WEEC, du World Environmental Education Congress. Et là maintenant, cette dynamique des acteurs non étatiques, et c'est vraiment une très très bonne nouvelle. À Lyon, on a eu un atelier en juillet, et donc arrivé à deux conclusions. Cette première conclusion, une politique pour tous les territoires, se rassembler avec l'ensemble des parties prenantes dans un territoire pour définir une politique de l'EEDD ensemble. Et ensuite, que chaque collectivité pose une ligne budgétaire pour aider les acteurs à mettre en œuvre leurs projets. Et nous sommes donc confirmés dans cette position d'investir sur l'EEDD. Je vois que les deux minutes sont passées. Avec le débat citoyen qui met en avant la solution éducation et culture pour faire face à la crise climatique. Et le deuxième, c'est le thématique dès qu'on a le 4 sur l'éducation. Donc nos rendez-vous pour nous, c'est maintenant de continuer cette élaboration ensemble et puis d'espérer un jour voir un espace mondial de concertation pour l'EEDD. Je vous remercie.
Merci beaucoup. L'exercice est effectivement frustrant. J'appelle tout de suite Jorge Furagaro. Vous êtes le représentant de la coordination Coordinator for Climate and Forest de COICA. Et vous nous parlez de forêts et de l'engagement des acteurs, de non-party stakeholders sur les forêts.
Gracias. En Lyon, la COICA, nuestra gran organización amazónica, habló sobre la importancia de los territorios indígenas para combatir el cambio climático. Nuestros territorios son nuestra vida, son nuestra plaza de mercado, son nuestros hogar de 400 pueblos indígenas que habitamos y vivimos en esos territorios. Y sobre todo tenemos la gran cantidad de carbono reservado en estos bosques. Esa es la importancia que queremos manifestarle al mundo. Por eso insistimos, los pueblos indígenas hoy, que no queremos más áreas protegidas en territorios indígenas, ni otra figura de conservación en territorios indígenas. ¿Cuál es la demanda que tenemos como pueblos indígenas? La legalización de los territorios indígenas, la ampliación de los territorios indígenas, la constitución de nuevos territorios indígenas, el saneamiento de los territorios indígenas. Eso es lo que estamos buscando, porque esa es la figura que ayuda a combatir el cambio climático. Somos nosotros los que hacemos gobernabilidad en nuestros territorios. No funcionarios que puedan gobernar áreas protegidas. Somos los pueblos indígenas los únicos que podemos gobernar nuestros territorios. Por eso insistimos y estamos insistiendo es que los pueblos indígenas amazónicos necesitamos fondos para legalizar nuestros territorios, para sanear nuestros territorios, para ampliar nuestros territorios y para conservar vida y para combatir el cambio climático. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, el tiempo perfecto. On voit bien là qu'il y a un sujet extrêmement important de justice climatique. autour de cette protection des forêts, en particulier pour les peuples indigènes. J'appelle maintenant Claire Roumet pour la coalition qui travaille sur les questions d'énergie, production et fourniture d'énergie. Claire Roumet, vous êtes déléguée générale d'Energy Cities.
Merci. Donc, effectivement, in 2 minutes, it has been asked just to explain what happened since Lyon and the summit at the beginning of July. The three main organizations of this workshop on energy production are mainly Energy Cities, Eurocities, and CLAIRE, which means it's a coalition of different stakeholders, some local authorities and other more civil society-based activists. What we had agreed in Lyon was mainly to say that the main topic and the main objective that we wanted to reach was to convey the message of the decentralization of energy production and the absolute need to decentralize power production, but also the ownership on energy being produced. Since then, what happened? A new commitment has been launched. The new covenant of mayors have been launched in the beginning of October. The covenant of mayors is a proposal to for cities to engage into a process of having a common objectives and then doing some action plans to reach this objective. This new covenant of mayors is now having an objective of decarbonizing territories by 2050 with three strands of action. One in 2030 with minus 40% of CO2 reduction as an objective to be reached. One objective on adaptation to make sure that your territory is adapted to the climate change, and one new objective of access to energy for all, which means that now this new covenant can be globally applied and that cities from all over the world can sign it. What we have also witnessed since the July is, in general, a lot of new signatories to these commitments. The cities are engaging more and more every day. There is a new signatory covenant to the covenant every day at least. I think I would just stop there for the moment. Thank you.
Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Thierry Dedieu, secrétaire général de la Confédération. Pardon, secrétaire confédéral de la CFDT, qui anime la coalition avec Global Compact, ITUC et la CFDT sur les emplois et l'économie bas carbone.
Oui, j'ai appris au moins une chose, c'est que Laurent Berger n'était plus secrétaire général de la CFDT. Non, Bruno, c'est toujours lui, non, pas de souci. Très rapidement, attendez, je me mets un petit chronomètre parce que sinon je vais partir. Toc, toc, toc. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous dire deux mots sur notre atelier économie bas carbone et emploi. Bon, première chose, si on veut assurer une transition vers une économie bas carbone, il faut un changement de paradigme économique, évidemment, et que ça passe par une dynamique collective. C'est ce qu'on a identifié avec le territoire qui est au cœur de ce processus, et évidemment avec une approche systémique des questions, car une approche compartimentée ne permettrait pas d'avoir une dynamique collective suffisante. Évidemment que pour atteindre cet objectif, il faut mettre en place un certain nombre d'outils, et le dialogue social est quelque chose qui nous paraît évident, probablement au niveau européen pour un certain nombre d'évolutions de politiques industrielles pour être efficaces dans un pays comme le nôtre. Pour nous, la transition est évidemment un levier de croissance évident, plus qu'un souci ou une préoccupation à avoir. Donc, pas trop de crainte, saisissons les opportunités de la transition énergétique. Quelques recommandations, il faut être ambitieux, il faut investir, bien sûr, dans l'économie bas carbone, dans la mobilité, que ce soit des personnes ou des marchandises. Il faut évidemment travailler sur l'économie circulaire beaucoup. D'une manière générale, les perspectives d'emploi sont réelles. On ne va pas rentrer dans le détail. Laissez-moi juste vous donner un exemple d'une initiative prise par des équipes CFDT sur un territoire avec une entreprise. L'entreprise, c'est la direction des chantiers navals qui habituellement construit des sous-marins, des navires de défense et qui, dès 2008, a travaillé sur un projet d'hydrolienne offshore. Et la première ferme verra le jour très prochainement là, à Paimpol-Bréa. D'autres sont prévus pour arriver au final à quelque chose qui serait autour de l'équivalent d'une centrale nucléaire en énergie marine hydrolienne avec des produits innovants, avec, de avec des hydroliennes offshore. Je ne rentre pas dans le détail technique. Et évidemment, la région s'en est servie et la région a décidé finalement de faire à Brest un terminal pour les énergies marines. Donc, vous voyez, les entreprises, les partenaires sociaux et les responsables politiques ont endossé un certain nombre d'évolutions nécessaires. Merci.
Merci beaucoup. Bonne nouvelle de voir qu'on arrive à mobiliser les entreprises, les syndicats de salariés également dans la même dynamique de transition énergétique. J'appelle maintenant Carles Llorens. Vous êtes secrétaire général de Orufogar et vous avez avec le ROPA animé l'atelier sur l'agriculture.
Bien. Premier, comme secrétaire général d'un réseau global de régions, je dois exprimer notre reconnaissance au travail de Rhône-Alpes, spécialement le travail de Bernard Soulages, pour désigner une position claire de les régions et du gouvernement territorial en relation au climat. Ça, c'est le premier. Après, je dois dire que l'atelier de l'agriculture de Lyon, avec un grand travail de l'École Groupe de Sécurité Alimentaire de l'ORU, a lancé, pour les résumer, trois idées. La première, si l'agriculture doit être fondamentale pour la lutte contre les changements climatiques, il doit y avoir un changement profond de modèle. Entre l'agriculture productiviste et l'agriculture familiale, avec toutes ses limitations, il doit y avoir un modèle plus inclusif et plus durable, avec une meilleure gestion de les ressources foncières. Seconde idée. De sous la politique de libre-échange préconisée pour le... Pardon. De sous la politique de libre-échange préconisée pour l'Organisation mondiale du commerce, il y a une politique publique, et spécialement des gouvernements régionaux, qui peut se faire pour garantir les droits au sol des paysans, d'accès au marché des produits locaux, pour garantir le subministrement de l'eau et le répartiment des usages, pour favoriser l'irrigation, pour favoriser les coopératives, pour développer les filières territoriales, pour identifier l'origine des produits, pour lui donner un valeur ajouté. Et finalement, les gouvernements régionaux et locaux doivent garantir la sécurité alimentaire de les populations. Troisième idée. Le changement de modèle agricole doit passer d'une façon irréductible pour un changement de modèle territorial. Nous devons arrêter déjà l'exode rural à les villes et métropoles. Au pays, il doit y avoir un équilibre territorial et ça veut dire développer un développement dans tous les endroits, avec une politique de service dans tous les territoires, avec des infrastructures dans tous les territoires et une nouvelle relation entre le monde urbain et le monde rural et un respect plus grand pour le monde rural. Eh bien, avec deux minutes, c'est comme ça, c'est trois idées. Nous avons parlé de tout ça à Lyon et nous allons continuer à en parler. Merci.
Merci beaucoup. Les territoires sont aussi beaucoup engagés dans la coopération internationale et je vais appeler tout de suite Astrid Frey, chargée de mission du Pôle Afrique, Madagascar et Comores à la CUF, et Mam Bousso, chargée de projet développement durable ENDA Energy, et vous représentez la coalition CUF, ENDA, CCRE, AFCCRE et Plateforma. Et voilà.
Bonjour à toutes et à tous. Comme nous allons parler de partenariat, eh bien, nous parlerons donc à deux. Donc, normalement, il y a une slide avec nos engagements, si on peut la... Comme ça, ça m'évitera d'en parler. C'est les deux points principaux que nous avions mis en avant à Lyon. Donc, le travail essentiellement de deux mots-clés, peut-être, la coopération et le travail entre territoires. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Prochaine slide. Je voudrais insister sur le fait qu'il existe aujourd'hui des outils qui sont pris par les collectivités, par exemple les plans climat-énergie territoriaux, et qui sont ensuite utilisés à l'international pour partager les engagements et porter des politiques locales ensemble et pour un renforcement de capacité. Je ne vais pas parler du deuxième point, donc il existe aussi des programmes comme Déclic.
Merci Astrid. À Lyon, nous avions présenté le Déclic, défi climatique et citoyenneté, lancé par Enda Energy comme bonne pratique de mobilisation de la société civile. Depuis Lyon, nous avons continué ce travail de sensibilisation, de plaidoyer, mais aussi d'identification d'initiatives locales qui, si elles sont mises en échelle, peuvent accompagner les États à concrétiser leurs engagements d'émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a fait. Il y a une plaquette qui est là. Peut-être sur les perspectives. Ce que nous voulons au sortir de cette COP, c'est continuer ce travail d'identification des initiatives que nous en avons déjà identifié 4 avec l'appui de la région Rhône-Alpes. Donc nous allons continuer ce mapping et les accompagner à avoir peut-être un contact direct avec l'État pour les accompagner dans cette réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau des États.
Et au niveau de la coalition d'acteurs, donc ce qu'on pense au niveau des collectivités, c'est qu'il faut décloisonner de plus en plus les politiques, les acteurs et les services en charge du développement durable et des relations internationales et d'internationaliser des outils comme celui dont on vient de parler tout à l'heure, qui est la Convention des maires, puisqu'il est aussi maintenant question de pouvoir faire de la coopération internationale à travers cette Convention des maires. Et enfin, sur le deuxième point, qui est le troisième bullet point là, de continuer notre plaidoyer pour des dispositifs comme les 1% solidaires, que ce soit les 1% solidaires de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie, et plus récemment en matière de déchets. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Vous avez été plusieurs dans les ateliers à souligner la question du financement. Question combien importante. Et donc j'appelle Nathalie Le Denmat, vous êtes secrétaire exécutive de la commission finances locales pour CGLU et vous avez travaillé sur le sujet avec le GERES.
Bonjour. Donc si on peut passer le slide. Donc depuis Lyon, depuis l'atelier sur les questions de financement, en fait on a une mobilisation vraiment qui s'est beaucoup accrue de tous les acteurs et notamment à travers plusieurs études qui ont été réalisées alors par l'Île-de-France, par I4Cities, par la CCFLA et donc ce sont des états des lieux, des états des lieux analytiques. Alors on n'a pas de grand scoop, mais on a en fait un constat partagé. On a un constat partagé que bon, les flux sont insuffisants, hein, c'est de l'ordre, il faudrait doubler, voire tripler les flux pour une ville résiliente, dans un contexte où on a une faible capacité financière des collectivités locales, où les instruments financiers ne sont pas adaptés à la situation des collectivités locales et que donc pour aller chercher la finance climat, il va falloir construire de nouveaux mécanismes adaptés aux gouvernements locaux. Et puis on a une multiplicité justement d'initiatives pour aider les collectivités locales à aller rechercher des fonds. Donc un panorama dans lequel il est très difficile de se retrouver. Alors c'était une étape essentielle. C'était une étape essentielle et qui a beaucoup donc fédéré les acteurs pour mieux comprendre et mieux concevoir les solutions. Les trois grands axes, c'est d'abord la question de la gouvernance multiniveau entre l'État, les gouvernements locaux et les acteurs sur le terrain, société civile et acteurs privés. le renforcement de capacités, la capacité à faire des plans, à élaborer des plans climat-énergie et de l'ingénierie technique des projets, et enfin les mécanismes à mettre en place. Alors, si on passe le slide d'après, donc l'idée, c'est avant la COP 22 d'avoir d'élaborer des solutions concrètes qui puissent être mises en place justement pour faciliter ce financement. Et donc au jour d'aujourd'hui, au sein de la CCFLA, on a deux réseaux d'élus locaux qui sont donc dans l'animation d'une plateforme qui va permettre d'échanger les initiatives, de capitaliser. Un groupe de travail qui va se mettre en place aussi pour voir quels sont les mécanismes financiers à élaborer pour aller rechercher cette finance climat et la ramener, la canaliser vers les gouvernements locaux, et donc être en capacité de proposer quelque chose qui soit intégré au plan d'action du LPAA. Juste pour dire qu'au LPAA, la question des finances municipales n'est pas abordée comme telle et qu'en termes de visibilité, ça peut être un souci.
Merci beaucoup. Bravo. Des financements. La transition est difficile pour parler d'adaptation, mais l'adaptation, c'est un des sujets extrêmement importants également de l'ensemble de la mobilisation des acteurs. Et j'appelle donc Nicolas Humbert, directeur exécutif de Green Cross France, qui a travaillé avec ICC et ICLEI sur le sujet.
Bonjour. Finalement, entre financement et adaptation, on a aussi trouvé des points communs, mais le point sur lequel on a énormément insisté dans ce groupe adaptation, c'est de dire on a un nombre sans cesse croissant de catastrophes qu'on appelle climatiques, qui sont de plus en plus intenses dans leurs effets et qui se répètent de plus en plus régulièrement. Des inondations, des sécheresses, également des tornades, des cyclones, etc. Le lien avec le dérèglement climatique est avéré, même s'il n'y a pas un rapport de cause à effet qui permet de lier un dixième de degré à X cyclones en plus, en tout cas dans ce stade des connaissances scientifiques. Et il y a une urgence à rendre les territoires résilients. C'est une urgence qui peut être entendue au Vanuatu, qui peut être entendue en Afrique, qui peut être entendue en Californie. Il n'y a plus vraiment de nord et de sud. Il n'y a plus ceux qui ont les solutions et ceux qui ont les problèmes, mais la nécessité d'une coopération décentralisée. Le groupe a construit des ponts avec un certain nombre d'autres groupes, puisque quand on parle résilience, on va parler eau, on va parler trait de côte, rivage, on va parler océan, on va parler agriculture et alimentation, on va parler énergie, on va parler transport. Dans tous ces domaines, il nous a semblé intéressant, et c'est un clin d'œil à Bruno, de penser 4D. Bruno a été l'un des premiers penseurs 3D et 4D. Alors, ce qu'on met derrière ces 3D, c'est le déconcentrer, le diversifier, le décarboner, qu'il faut entendre au sens large, préservation de la biodiversité, préservation des ressources également, et la notion de démocratie. Démocratie qui se conçoit localement, qui se conçoit avec les territoires. Aujourd'hui, le fonds vert tel qu'il est pensé est surtout pensé pour faire du massifié. On pense qu'il y a des leviers d'investissement, notamment sur l'adaptation, notamment sur la résilience, qui doivent être conçus à l'échelle des territoires. On est dans une logique de coopération. On est également dans une logique où il y a beaucoup à faire en utilisant les technologies, qu'il s'agisse du big data, pour mieux savoir comment agir. La gouvernance locale est essentielle et l'économie circulaire a un certain nombre d'éléments de solution et doit être pensée comme une trajectoire utile pour l'adaptation, utile pour la résilience, mais utile également pour construire du lien social et démocratique. Merci.
Merci beaucoup. Alors, pour le coup, j'ai une transition facile avec la planification territoriale, qui est un atelier qui a été animé par la FNO et Energy for SD, et j'appelle Marty Anglade. Vous êtes chef de la délégation catalane en France et en Suisse, et vous êtes également coprésident pour le Nord de Energy for SD.
Bonjour. Avant tout, remercier Ronalp et M. Bernard Soulage pour son enthousiasme et ses bien-faire. Dans l'atelier, notre atelier sur la planification territoriale, nous avons développé une collaboration fructueuse avec la Fédération nationale des agences d'urbanisme de France. la planification devrait être conçue comme l'instrument nécessaire d'une action inscrite dans la durée. En ce temps de réflexion, nous devons souligner son importance si l'on souhaite avoir une approche complète et intégrée du changement climatique, de ses causes et des variables sur lesquelles il agit. Cette conception de la planification territoriale comme instrument de mise en œuvre des politiques devrait être endossée par tous les niveaux de gouvernement. Or, on observe que ce sont surtout les gouvernements infra-étatiques qui recourent à la planification territoriale, puisqu'ils doivent aborder les particularités des villes et des territoires et adopter des mesures adaptées à chaque contexte. Par le biais d'une planification territoriale intégrée, les gouvernements sont, par exemple, en mesure d'identifier les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les zones et les territoires les plus exposés aux conséquences du changement climatique. De même, ils seraient plus en mesure de définir des objectifs à long terme concernant le développement des infrastructures vertes, de promouvoir l'économie circulaire, de renforcer le développement des énergies renouvelables. Il pourrait aussi renforcer l'engagement de la société civile. Appliquer cette vision holistique à l'échelle et aux besoins propres des villes, c'est précisément cela la planification urbaine. Et c'est la leçon très importante que nous avons apprise lors du sommet de Lyon. Mais il s'agit désormais de dépasser les limites des communes et de considérer les territoires comme un tout. En termes d'amélioration des synergies entre villes et zones rurales, par exemple, une planification coordonnée entre villes et régions offre un potentiel très important et cela confirme que la planification territoriale est aussi un outil précieux dans les processus de gouvernance multi-acteurs et multiniveaux. Dans le contexte de la COP21, nous devons insister et obtenir la reconnaissance de l'importance de la planification territoriale comme outil efficace dans la lutte contre le changement climatique et l'établissement des processus participatifs pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de nos actions. Amélioration de la participation citoyenne dans l'élaboration des politiques, décentralisation du suivi de la mise en œuvre de ces politiques. La planification participative et globale sera l'un des éléments clés du nouveau régime mondial du climat. À la suite de consultations menées avec différents gouvernements régionaux et locaux, nous avons publié une compilation de titres pour le sommet mondial climat-territoire intitulé « Inspiring Action for Urban and Regional Planning ». Vous pouvez les télécharger sur notre site et nous avons aussi ramené quelques copies pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage sur les mesures concrètes prises par les gouvernements infra-étatiques. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, dernier atelier qui s'était mobilisé en amont de Lyon, c'est l'atelier qui a travaillé sur la mobilité et les transports. Et donc, j'appelle Julien Allaire, directeur du CODATU, qui a travaillé avec FNE, France Nature Environnement, sur le sujet.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, en effet, on a travaillé avec France Nature Environnement sur cet atelier sur le transport et la mobilité. Le transport, je le rappelle, c'est 23% des émissions de gaz à effet de serre. Et en 2050, ça devrait être le secteur le plus émetteur globalement. C'est déjà le secteur le plus émetteur dans beaucoup de pays et c'est un secteur qui consomme plus de 50% de la ressource pétrolière. Quand on parle de décarbonisation, il faut parler de transport. La mobilité urbaine, transport de marchandises et de personnes, c'est entre 30 et 50% des émissions du secteur du transport tout entier. Et le travail qu'on a réalisé avec l'ensemble des réseaux de collectivités locales, les collectivités locales elles-mêmes, les entreprises, et je remercie vraiment l'ensemble des acteurs qui ont participé à cet atelier, a vraiment souligné l'enjeu de la planification urbaine de la mobilité, une planification multimodale articulée avec le développement urbain, une planification stratégique et qui doit également être en lien et en lien très fort avec des politiques nationales afin de favoriser un maximum d'actions au niveau local et au niveau de toutes les agglomérations d'un pays. Nous avons depuis beaucoup travaillé pour essayer de répondre à cet appel des collectivités locales sur la planification de la mobilité urbaine. Et nous avons rassemblé des partenaires pour lancer une initiative qui s'appelle Mobilize Your City. Cette initiative sera présentée demain au Transport Focus dans la zone bleue de 10h à 13h30. Elle réunit des partenaires tels que la GIZ, l'Agence française de développement, le CEREMA, l'ADEME, le ministère de l'écologie français, le ministère de l'environnement allemand. finalement tous réunis pour considérer que la technologie ne suffira pas au secteur des transports pour répondre à l'action nécessaire et que l'action publique est cruciale pour pouvoir utiliser la bonne technologie à bon escient. Cette initiative, elle essaye de rassembler une centaine de villes qui s'engagent d'ici 2050 à diviser par deux leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à un scénario au fil de l'eau. Et nous avons déjà levé une dizaine de millions d'euros et nous faisons appel évidemment à des financeurs pour travailler sur cette action d'ici 2020. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Donc c'était un peu rapide, mais ça vous a donné une vision large du travail qui a été fait par l'ensemble de ces coalitions d'acteurs. Et au moment où on insiste beaucoup sur l'agenda de l'action, vous comprenez bien qu'on est effectivement, avec cette mobilisation des multi-acteurs, tout à fait dans le ton de la COP21. Je vais maintenant appeler à la fois Ronan Dantec, qui représente CGLU sur les questions climat, mais également les intervenants de la table ronde que je vais proposer, que je vais inviter à rejoindre tout de suite la table ronde, Monsieur Gino Van Beggin, Monsieur le ministre David Hurtel, Patrick Klugman, s'il est arrivé, Monsieur Dominique Héron, Jorge Furagado également, Lars Galvani du CAN, Anne Barr pour le Women European Coalition, Women in Europe for the Common Future. I mean, it has been changed at the last minute. So, et puis, j'ai dû oublier quelqu'un. Delphine Blumereau et Thierry Dedieu. Delphine Blumereau de Climates et Thierry Dedieu, donc secrétaire confédéral de la CFDT. Voilà, et je laisse tout de suite la parole à Ronan Dantec qui va nous présenter le projet de déclaration. Et je vous inviterai ensuite à réagir sur ce projet de déclaration, à voir en quoi vos constituencies peuvent aider à la mise en œuvre de cette déclaration.
Bien, merci à tous de vous être mobilisés alors que certains sont encore bloqués à l'extérieur. Mais je crois que cette salle très remplie montre que la dynamique que nous avons créée, renforcée à Lyon, et je remercie moi aussi encore la région Rhône-Alpes et Bernard Soulages pour leur investissement, y compris après le sommet, parce qu'on a tous en mémoire des sommets où au lendemain du sommet, tout se perd. Ici, ça n'est pas le cas. L'exercice était difficile pour ceux qui ont porté les coalitions d'acteurs en deux minutes de vous raconter à la fois l'enjeu et ce que nous allons faire maintenant. Mais donc ce que je voulais vous dire avant de parler de la déclaration, c'est que cette dynamique, nous comptons vraiment continuer à la faire vivre. Avec, vous pouvez déjà sortir vos agendas, le prochain sommet mondial des acteurs non étatiques qui aura lieu à Nantes du 26 au 28 septembre 2016. Et nous dévoilerons à 17h45, vous êtes tous invités, le nom et les grandes lignes de ce sommet sur le pavillon des collectivités. Et ce sommet, nous voulons vraiment en faire un moment annuel et qu'il tourne ensuite dans le monde. Et c'est aussi avec cette étape et avec aussi Marrakech, la COP22 en vue, que les coalitions créées à Lyon seront aussi amenées à se re-rencontrer avant le sommet, à encore affiner le travail en commun et continuer à participer de la construction d'un monde qui stabilise le climat. Par rapport à la déclaration que nous allons maintenant vous présenter et qui normalement devrait être affichée. Dire tout d'abord que ça n'est pas une nouvelle déclaration, un nouveau texte, mais bien un élément complémentaire de la déclaration de Lyon. La déclaration de Lyon, qui a été signée par des acteurs représentatifs, voire l'ensemble, pour certains acteurs, l'ensemble de la constituency, cette déclaration de Lyon est la déclaration la plus largement signée par des acteurs non étatiques de l'histoire des négociations sur le climat. Et je crois que ça a été une déclaration extrêmement visible, vue par les États et par l'ensemble de, des acteurs mondiaux dans notre capacité, et c'est ça qu'il faut préserver, dans notre capacité à exprimer des positions communes. Exprimer des positions communes, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord sur tout. Ça veut dire que sur un certain nombre de points, nous avons trouvé des consensus et que nous avons un certain nombre de perspectives et de priorités communes. La déclaration que nous vous proposons aujourd'hui s'inscrit tout à fait dans cette logique. Et elle permet de mettre l'accent, après Lyon et à 10 jours de la clôture de la COP, sur quelques priorités que je vais essayer donc de vous rappeler. Tout d'abord, de dire très fortement, ensemble, qu'aujourd'hui, les contributions volontaires des États mettent le monde sur une trajectoire 3 degrés et que cette trajectoire 3 degrés est insupportable. Et que le premier message que nous passons, c'est qu'effectivement, il va falloir dépasser ces contributions volontaires. Il faut que les mécanismes qui sont décidés dans cette COP nous mettent sur un scénario crédible, non pas seulement de 2 degrés, mais bien, et c'était ce qui était dans le texte de la Convention de Cancun, avec une perspective d'aller vers le 1,5 degré. C'est ce que nous avons écrit ensemble à Lyon. Il nous faut donc effectivement un mécanisme transparent, d'évaluation régulière et ambitieuse. Nous rappelons aussi dans cette déclaration un certain nombre d'enjeux, et c'est évidemment le sens de notre travail collectif, sur le fait d'associer l'ensemble des acteurs non étatiques à la solution. Nous l'avons déjà tous dit, sans la mobilisation de l'ensemble des acteurs non étatiques, sans la mobilisation des territoires et sans une approche territoriale, aucun État n'atteindra ses propres engagements. Nous sommes donc au cœur de la solution. Cette COP est une avancée dans le fait qu'il y a beaucoup plus d'événements autour de l'association des acteurs non étatiques, notamment autour de cet agenda des solutions matérialisé par le Lima Paris Action Agenda. Nous disons donc que cette approche est aujourd'hui une réelle opportunité. Mais nous disons aussi dans ce texte qu'il ne s'agit pas d'avoir quelque chose de fourre-tout et finalement assez mal maîtrisé par les acteurs non étatiques. Et là-dessus, le texte est comme toujours précis. Le texte de Lyon n'était pas juste une vague déclaration pour trouver un consensus. Mais nous disons des choses extrêmement précises. Nous disons deux choses très précises. Nous disons qu'il faut une gouvernance de ce pilier de l'agenda à travers le Lima Paris Action Agenda ou l'ensemble du dispositif War Crime 2, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, qui associe les acteurs non étatiques de manière claire. Et dans nos priorités, dans notre lobbying des prochains jours, il faut qu'effectivement, dans le texte final, il y ait cette ouverture à une gouvernance avec les acteurs non étatiques. C'est une priorité. Et nous disons aussi, à travers cette association des acteurs non étatiques au texte, que ça doit permettre de renforcer la crédibilité des initiatives, qu'effectivement, et je sais que c'est un souci pour un certain nombre d'acteurs qui sont extrêmement vigilants là-dessus, il ne faut pas que ce soit une machine de greenwashing, et que donc notre capacité d'évaluation collective doit aussi permettre d'éviter ça. C'est la phrase « la crédibilité des initiatives sera garantie par des évaluations régulières ». Donc, voilà des points très précis. Nous disons aussi dans ce texte, nous l'avions dit fortement à Lyon, c'était avant l'adoption des objectifs de développement durable par l'Assemblée des Nations Unies, que le lien est indéfectible entre climat et développement. Que si nous ne respectons pas, si nous ne cherchons pas à atteindre les objectifs de développement durable, nous n'atteindrons pas les objectifs sur le climat. Que si nous ne résoudons pas la crise climatique, nous n'atteindrons pas les objectifs de développement, que c'est le même agenda. Et je crois que le fait que les acteurs non étatiques collectivement soient capables de redire ça est important. Ça n'est pas encore si présent dans l'ensemble des discours ici. Et puis, bien sûr, c'était aussi un élément très fort de Lyon, et ça a été présenté dans juste avant moi sur l'atelier finance. Le financement est au cœur de la réponse, et ce financement doit notamment aller sur les territoires du Sud, aller jusqu'au territoire. Pour nous, ça, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Voilà ce que nous voulions dire. Il reste 10 jours pour que la conférence Paris-Climat 2015 réponde véritablement aux attentes, crédibilise un scénario de stabilisation du réchauffement climatique. Nous avons montré notre mobilisation, nos engagements aux États maintenant de conclure un accord universel, robuste, contraignant et équitable pour un 21e siècle solidaire et apaisé. Merci.
Très bien. J'ai Je voudrais commencer avec vous, Monsieur le ministre David Hurtel, ministre de la province du Québec. Vous représentez également le Climate Group. Est-ce que sur ces différents points, et peut-être sur celui du renforcement de l'ambition des engagements, est-ce que vous pensez que vos collectivités peuvent effectivement peser pour faire évoluer l'ambition de la négociation globale ?
Je crois... Est-ce qu'on m'entend ? Oui, bon, bonjour. Alors, je crois que non seulement vont, mais le font déjà. Tant les États fédérés que les régions et les grandes municipalités, et on l'a vu à Lyon, et moi-même, à mon tour, de saluer Bernard Soulage et toute l'équipe de la région Rhône-Alpes pour le travail exceptionnel qui a été fait au sommet de Lyon. Mais on l'a vu, le leadership, à bien des égards, se fait au niveau des États infranationaux. Si on prend l'exemple canadien, le Québec et d'autres provinces canadiennes ont joué un rôle et jouent encore un rôle de leader. Nous avons établi au Québec le plus important marché du carbone en Amérique du Nord avec un autre État fédéré d'un autre pays, la Californie. L'Ontario a plus tôt cette année pris la décision de joindre à ce marché du carbone. D'autres États considèrent sérieusement se joindre également à ce marché, notamment les États de New York, les États d'Oregon et de Washington. Donc, quand on regarde la dynamique en Amérique du Nord particulièrement, on voit clairement que c'est au niveau des États fédérés, au niveau des États infranationaux, que le leadership en matière de lutte contre les changements climatiques concret se fait. Et donc, encore une fois, on l'a vu, la semaine dernière, le Québec a annoncé une cible de réduction de 37,5% d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Ça, c'est la cible de réduction la plus ambitieuse au Canada. Et si on ajoute ça à celle de l'Ontario qui est de 37 %, celle de la Californie qui est de 40 %, encore une fois, le leadership est au niveau des États fédérés. Donc, évidemment, ce qui s'est dit au sommet de Lyon, ce qui s'est dit par la suite et la déclaration, illustre clairement le leadership concret des États fédérés. C'est pour ça également, quand on voit le langage, et Bernard Soulage y a fait référence dans ses remarques introductives, le langage déjà qui circule reconnaît ce rôle, il doit le reconnaître parce qu'encore une fois, au niveau des juridictions, au niveau des compétences en matière de lutte contre les changements climatiques, c'est encore une fois, ça se retrouve au niveau des États fédérés, au niveau des régions, au niveau des municipalités et il faut reconnaître ce rôle fondamental. Alors, et on voit que l'action des États fédérés, puis là je peux parler du Climate Group si vous le permettez, le Climate Group maintenant... ça représente plus d'une cinquantaine d'États fédérés à travers la planète, plus de 500 millions de personnes, et ça opère un véritable changement. À Lima, les États fédérés, les États infranationaux étaient à l'extérieur et regardaient et tentaient d'être à l'intérieur. Maintenant, durant la COP, dans les prochains jours, il va y avoir des journées entièrement consacrées au rôle des États infranationaux. Et ça, c'est très important de souligner, et ça, c'est grâce justement au leadership d'États comme le Québec, d'États comme la Californie, comme l'Ontario et d'autres États à travers la planète. Et donc, tant concrètement qu'au niveau politique, et ça, on l'a vu encore au sommet de Lyon, c'est véritablement à ce niveau-là que le vrai changement s'opère. Et donc, cette reconnaissance est non seulement nécessaire pour avancer, mais si on veut se rendre aux véritables objectifs, et je terminerai là-dessus, si on veut se rendre à véritablement un 2 degrés, bien encore une fois, où est le leadership? Je cite le Under 2 MOU, mm-hmm. qui est mené par des États infranationaux encore, auxquels a adhéré le Québec, qui fait en sorte, encore une fois, qu'une cinquantaine d'États fédérés, cinquantaine d'États infranationaux, ont signé un engagement à réduire leurs émissions de 80 à 95 d'ici 2050 et à limiter les émissions per capita à 2 tonnes par personne. Alors, encore là, on voit véritablement que l'action concrète se fait au niveau des États infranationaux.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Gino Van Beuggen, vous êtes secrétaire général de l'ICLEI. En quoi cette coalition plus large qui dépasse les collectivités territoriales peut aider justement la mobilisation de l'ensemble des acteurs territoriaux?
Thank you very much, Mr. Chairman. I think that the declaration that has been presented here today and also the summit that took place in Lyon before the COP21 is an important momentum of demonstrating the consistency between the various actors that are trying to influence the negotiations here today, but also over the last 7 years since Bali. I should say that the agreement that is on the table today is a frustrating agreement, if it will be an agreement. The commitments that are on the table are curbing the trajectory of the emissions, but certainly not there where we have to be. And so it has become therefore very, very clear that the national governments need the other levels of government at the subnational level, at the federal state level, as well as at the local level, to use their competencies, their budgets, their technical capacities, and the reach out towards the citizens, the level of citizen that is the most closest to the level of government, sorry, that is the most closest to the citizens, to have and realize an impact of change. And so in that perspective, I think speaking on behalf of the constituency of subnational and local governments in particular, I think that we have all very well understood how important it is to accelerate and achieve more on the ground. And I think we have a number of important elements already on the table. There are a number of initiatives around the world, such as the Compact of Mayors, the Compact of States and Regions, the Mexico City Pact, the Durban Adaptation Charter, Earth Hour Challenge, the Covenant of Mayors, all kind of initiatives that bring together mayors, local government leaders, regional leaders, together towards new targets. We have put on the table in Lyon some figures, at least from the figure that we have and from the cities that we are working with, we could clearly see that there are commitments to reduce up to 1 gigaton of greenhouse gas emissions until 2020. 1 gigaton of emissions represents approximately what the European Union has reduced from 1990 until 2012, so over 22 years. It is already a substantial contribution to the negotiations and the talks here. What is needed now is that these kind of initiatives are being further supported in terms of implementation and realization of these. This is also why we, at least from an ICLEI perspective, with partners, have launched what we call the TAP, which is a Transformative Action Plans, and we have mobilized cities from around the world since April this year to come here to Paris with their new plans, plans that are not yet implemented, that need and can be implemented if they are supported financially or technically around the world. 70 of them will be presented here over the 2 weeks, and I invite you to come to the pavilion. All this kind of work is done, of course, in close cooperation when we look at the local level with the NGOs and the other actors, businesses, science, scientists, research on the ground. So we are, I think, looking forward to see that an agreement comes here can be concluded here in Paris, but we're also very realistic to see that it's important to have a process that is being included so that we can move on and raise the ambition further. Thank you.
Merci beaucoup. Il y a beaucoup, et vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de coalitions d'acteurs, y compris d'acteurs territoriaux. Et nous avons la chance d'avoir avec nous Patrick Klugman. Vous êtes adjoint aux relations internationales de la mairie de Paris. Madame la maire de Paris est par ailleurs membre du C40. Autre coalition très engagée, vous allez recevoir dans quelques jours de très nombreux maires de l'ensemble du monde entier. Là aussi, est-ce que vous pensez que cette dynamique peut peser et va forcer les négociateurs à aller plus loin dans les ambitions de la COP21?
À l'évidence, oui, ce que nous sommes en train de faire est un... Pardon, voilà, je vais essayer d'y arriver. Est un moment qui va marquer les négociations climatiques et les négociations internationales. je crois que le rôle des collectivités locales, le rôle des villes, comme acteurs de production et de changement des normes internationales est définitivement acté à Paris avec la COP21. Et pour être très clair, il y a dans cette salle des gens qui connaissent bien mieux que moi les COP et depuis bien plus longtemps. J'en vois un au premier rang qui est évidemment Ronan Dantec et nombreuses personnes derrière lui également. Ce qui s'est passé à Lyon au mois de juillet dans le sommet climat et territoire, c'est là où, en tout cas, du point de vue français, nous, à Paris, on a senti le changement. C'est là où François Hollande, le président de la République, a adressé un message aux villes en disant « Vous n'êtes pas des spectateurs. Nous vous attendons pour vos solutions, pour votre mobilisation, pour votre capacité à engager vos populations. Et nous serons là également pour faciliter l'accès des collectivités au financement. » Donc il y a eu une étape qui n'était pas une étape intermédiaire ou une étape anodine à Lyon au mois de juillet et qui aujourd'hui se concrétise et prend forme. Et donc effectivement, dans quelques jours, vendredi, nous allons, avec tous les réseaux de collectivités, le C40, ICLI, CGLU et de nombreux autres, nous allons organiser ce sommet que nous avons surnommé le sommet des 1000 maires, au terme duquel une déclaration politique va être prise pour que les villes fassent leur chemin, prennent leur part entre ce que nous attendons du sommet de Paris, et il y aura un accord à Paris, et l'accord existant, faut-il s'en satisfaire ou pas, je n'en sais rien, mais en tout cas, nous savons que l'accord, et Gino vient de le rappeler, ne sera pas, je dirais, performant pour assurer la limite du réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Eh bien, les villes prendront leur part pour, je dirais, filling the gap, c'est-à-dire combler le manque entre ce qu'il faudrait faire et ce que nous aurons comme accord prévu à l'issue de la négociation de Paris. Et voilà ce que sont les villes, des acteurs qui sont capables de se mobiliser, de s'organiser, de produire du changement immédiat et surtout de produire vis-à-vis des opinions publiques ce que c'est à la fois que le réchauffement climatique et que la solution. Quand on veut agir efficacement sur le réchauffement climatique, on joue sur quoi ? Dans les grandes villes ou dans les grands espaces urbains. La circulation, c'est entre les mains des villes. La construction, c'est entre les mains des villes. Le réchauffement ou le refroidissement des immeubles, c'est encore des choses qui sont entre les mains directement ou indirectement des collectivités, comme la production et la consommation au sens large des énergies. Donc bien sûr que les grands acteurs des solutions, ce sont les villes, et qu'il appartenait donc à nous tous, ensemble, d'organiser la visibilité politique dans le cadre de la négociation climatique. Et cette fois, nous avons été entendus, nous sommes associés. Le vendredi, le président de la République sera là, mais Ban Ki-moon sera auprès des villes, et le lendemain, les villes iront dans la zone bleue remettre le résultat de leur déclaration. Donc je crois que la COP21 est historique, au moins de ce point de vue-là. Il y a un tremblement de terre qui, celui-là, est vertueux, qui nous permet désormais de dire que les collectivités sont coproductrices, co-imaginantes, j'ai envie de dire, des solutions de demain dans les grandes négociations internationales, en tout cas dans celles qui concernent le climat. Je crois qu'il n'y aura plus d'avant, de retour à la situation antérieure. Quelque chose a changé et nous sommes en train de le vivre. Et je crois que toutes les personnes qui sont là, Gino, Ronan, Bernard et nombreux autres ont été vraiment les acteurs, les témoins, les constructeurs de ce changement et je suis heureux moi, de le vivre avec eux en direct.
Merci beaucoup. Alors, on a vu beaucoup les territoires s'engager. Il y a un autre secteur qui s'engage également, qui est le secteur du business, le secteur économique. Dominique Héron, vous êtes président de la commission environnement et énergie de CCI France, la chambre de commerce internationale. Est-ce que vous trouvez votre place dans ce tour de table multi-acteurs ? Parce que force est de constater que pendant longtemps, il n'était pas toujours facile d'avoir du dialogue constructif, prospectif entre territoire et entreprise. C'est un peu une première d'avoir ici les entreprises et les territoires et les ONG côte à côte. Comment vous voyez cette évolution ?
Alors, je dirais que on y trouve effectivement tout à fait notre place. Et j'ajouterais qu'on y trouve d'autant plus notre place que ça fait un certain temps que nous y sommes, si je puis dire. Puisque Ronan Dantec étant ici, je crois que ce dialogue constructif avec des parties prenantes aussi différentes et qui font apparaître le monde du business avait commencé déjà à EcoCity, à Nantes, il y a déjà quelque temps. Donc oui, pour répondre à la question très directement, d'une part, nous trouvons notre place. Deuxièmement, nous nous y retrouvons tout à fait dans le texte qui est la nouvelle déclaration, qui précise, accentue, concrétise et lance un appel vibrant à l'action et qui, à ce titre, va tout à fait dans le sens de la déclaration qui était déjà sortie du sommet de Lyon. Et pour également apporter un élément de preuve supplémentaire, s'il en fallait, par rapport au fait que le business n'est pas du tout déphasé par rapport à tout ça, c'est que la Chambre de commerce internationale, avec une initiative du Comité France, mais après tout, la COP se déroulait en France, il était bien normal que le Comité France prenne une initiative. Nous avons lancé un appel aux différentes entreprises, membres du réseau de la Chambre de commerce internationale. Je rappelle que nous avons des comités dans la plupart des pays ou des régions. Donc il y a une dissémination géographique totale et absolue, si je puis dire. Donc nous avons lancé un appel pour codifier les bonnes pratiques des entreprises en matière de climat. Au début, avec un côté un petit peu utopique, on avait appelé ça le code de bonne conduite des entreprises. On nous a fait remarquer, certains pays que je ne citerai pas, mais que vous devinez, qu'il fallait être plus concret, plus pragmatique, et nous avons transformé ça en bonne pratique des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cet appel, entre guillemets? Bien, tous les ingrédients, entre guillemets, et ça permet de répondre à votre question, tous les ingrédients qui figurent dans la déclaration. D'abord, une approche inclusive, c'est-à-dire que la lutte du point de vue des entreprises, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la lutte contre les dérèglements climatiques, ce n'est pas seulement une affaire de haute technologie, bien sûr, mais c'est aussi une affaire, si je puis dire, d'approche plus large, sociétale, de sensibilisation, de mobilisation, et donc d'intégration de toutes les problématiques. Et d'ailleurs, je peux me féliciter que nous avons travaillé avec des grandes entreprises en France qui sont représentées non seulement par leur directeur du développement durable, mais également par leur directeur des ressources humaines. Je salue la présence du groupe Engie, dont le DRH est dans la salle. Jusqu'à présent, quand on avançait sur ce sujet-là, c'était un volet uniquement environnement, développement durable. Donc ça montre que la thématique et la dimension sociétale progresse de ce côté-là. Je termine, je ne veux pas être trop long. Ce qui est important aussi, et ça fait écho à ce que vous dites, c'est qu'on a longtemps tous les uns et les autres travaillé en silo. L'idée des major groups de l'ONU est intéressante parce qu'elle fait apparaître des groupes majeurs qui jusqu'à présent n'avaient pas le droit de citer. Enfin, souvent, elle les met côte à côte. Et dans des démarches comme celle de Lyon, dans des démarches qui ont été lancées à Nantes et qui vont se poursuivre à nouveau à Nantes et qui se retrouveront d'ailleurs à Habitat 3 en octobre 2016 à Quito, les major groups ou les constituency, comme on dit, travaillent ensemble, voient ensemble ça sera le mot de la fin. Finalement, quand il y a un territoire, qu'est-ce qu'il y a sur un territoire? Sur un territoire, il y a une autorité politique qui est légitime, ça va de soi. Et puis, il y a des activités économiques qui sont incarnées par les entreprises. Et puis, il y a la société civile qui est incarnée, représentée par toute une série d'associations. Ces mondes ne peuvent pas être côte à côte. Les interactions sont évidentes, ne serait-ce qu'au titre de l'adaptation. S'adapter aux risques climatiques, merci, ça veut dire, pour un chef d'entreprise, penser à ce qu'il va faire si, à la suite d'une catastrophe climatique, la moitié de son personnel ne peut pas venir travailler. Bon, bah, peut-être qu'il faut-il qu'il merci se préoccupe de ce sujet-là. Je m'arrête, mais je crois que j'ai essayé de répondre à votre question.
Merci beaucoup. Alors, entreprise et bien sûr représentants syndicaux, Thierry Dedieu, vous êtes secrétaire confédéral de la CFDT. Est-ce que là aussi vous vous retrouvez dans ce texte? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va dans le bon sens? Je vais vous laisser vous lever, comme ça, ce sera plus simple. Je vous laisse la place.
Merci beaucoup, Bruno. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors, clairement, moi, ce qui me réjouit à travers ce texte, c'est de voir que l'ensemble des acteurs dits non étatiques vont dans le même sens et exigent, ont la même exigence d'une société résiliente et donc d'une société se dirigeant vers les 2 degrés, voire les 1,5 degré. Donc tout ça nous va plutôt bien. On est tous ensemble sur cette demande-là vis-à-vis des acteurs qui négocient ici. Donc ça, c'est quelque chose, finalement, où on se retrouve. Et la déclaration, finalement, reprend assez bien ça. Donc, clairement, notre inscription vers un autre modèle de développement est importante. Un mot pour nous qui est clair, me semble-t-il, c'est qu'on ne résoudra pas la question du climat si on ne résout pas la question du développement. Pour les pays du Sud, il appartient aux pays du Nord de ne pas freiner leur développement et surtout de leur donner les moyens de le faire. Et il faut qu'ils le fassent sur la base d'une économie sobre en carbone, c'est-à-dire qu'ils sautent l'étape de l'économie carbonée. Et donc là-dessus, c'est quelque chose d'essentiel. Évidemment, quand on parle d'une transition juste pour les travailleurs, ce modèle de développement qui doit accompagner les pays du Sud à se développer vaut également pour les pays du Nord qui doivent repenser leur modèle. Et évidemment, si on va vers une mutation, vers une économie sobre en carbone, alors on sait que les conséquences sur l'emploi seront très importantes dans un certain nombre de secteurs et que, par conséquent, il y aura à anticiper les changements à venir. Il y aura des opportunités, mais sans anticipation des changements, il risque d'y avoir un rejet de la part de ceux qui sont déjà inquiets pour leur emploi lié à la situation économique et sociale. Donc la question n'est pas d'un oui mais c'est bien sûr d'un oui comment, c'est un oui avec les travailleurs qui sont associés. Et je terminerai pour dire un mot sur quand même l'exercice auquel on est confronté. Vous êtes acteurs non étatiques, mais vous êtes malgré tout des acteurs politiques. Je m'adresse là évidemment aux collectivités locales et territoriales. Vous allez devenir nos interlocuteurs dans la négociation sur le terrain. Oui, le niveau local est le niveau sur lequel les décisions doivent être prises. Mais nous allons nous adresser, nous, en tant que représentants des travailleurs et d'autres acteurs, à des acteurs politiques démocratiquement élus. Alors, dans des États, des entités infra-étatiques, certes, mais malgré tout des acteurs politiques. Et c'est là où on vous attend, c'est que votre plaidoyer, notre plaidoyer commun vers une économie résiliente et bas carbone, elle doit se faire avec le dialogue social, par le dialogue social, et vous êtes un interlocuteur à un moment donné qu'on doit rencontrer sur le terrain. Merci.
Merci beaucoup. Donc effectivement, du dialogue social territorial pour faire, pour réussir cette transition, cette mutation des systèmes de production. La mutation des systèmes de production, ça nous envoie vers les générations futures. Delphine Blumereau, vous êtes présidente de Climates. Comment les confédérations de jeunes abordent ces enjeux-là et comment vous réagissez à ce texte? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon d'engager l'ensemble des constituencies, comme on dit?
Donc Climates est un membre de Youngo, qui est le groupe majeur des jeunes à la CNUC. Et Youngo organise depuis maintenant 11 ans, c'était la 11e édition de la conférence des jeunes. Et c'est un événement qui s'est terminé il y a 3 jours et qui a rassemblé plus de 10 000 jeunes dans 9 villes sur tous les continents. Et je pense que cette année, les jeunes ont montré leur capacité à savoir s'organiser, à se mobiliser et aussi à s'inscrire dans l'agenda international du climat, puisque ça a été la plus grande mobilisation des jeunes qui ait jamais existé, avec plus de 110 personnalités réunies à Paris sur 3 jours avec 6 000 jeunes. Et je pense que c'était aussi un signal vraiment fort donc de la capacité des jeunes à co-construire le monde de demain, déjà apporter des solutions concrètes, et de la crédibilité des jeunes et des ONG jeunes à vouloir travailler avec d'autres acteurs. Et je pense que le sommet mondial climat et territoire, c'est vraiment une continuité de ce qu'on a essayé de faire cette année et qui, j'espère, va s'amplifier d'année en année. C'est vraiment un appel à co-construire avec d'autres acteurs et notamment les collectivités locales, des mobilisations et des sensibilisations massives des jeunes sur les territoires. Ce qui est intéressant, je pense, avec Youngo et notamment avec Climate, c'est ce focus sur l'éducation. Les jeunes, on ne se focalise pas uniquement sur l'éducation, mais moi, je ne serais pas en train de parler si je n'avais pas été sensibilisée au changement climatique. Si on veut mettre en mouvement la génération, parce qu'on est vraiment la dernière, je pense, à pouvoir relever ce défi, il faut qu'elle soit sensibilisée, qu'elle comprenne ce qui se passe. Aujourd'hui, l'appel des acteurs porteurs du sommet mondial des territoires, espère que la COP21 va parler de l'éducation. Pour le moment, au même titre que les sols et les océans, l'éducation est juste absente de la COP21. Pour des raisons qui sont simples, c'est que l'agenda des solutions prend en compte uniquement des solutions mesurables et concrètes. Les contributions nationales des pays ne prennent pas en compte l'éducation. Et je pense que c'est une évidence qu'on ne peut pas faire une transition vers un monde bas carbone sans éducation et uniquement avec la technologie. En prenant ça pour compte, c'est quand même... l'éducation est complètement délaissée de la COP21. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'on ait une mobilisation des acteurs non étatiques en parallèle des COP pour justement combler ces grands sujets qui ne sont pas pris à bras-le-corps par les négociations et par les États. Et c'est pour cette raison-là que je pense que Youngo et les ONG jeunes ont toute leur place au sein de cette mobilisation pour travailler main dans la main avec les collectivités locales pour qu'on puisse vraiment mobiliser les jeunes et la génération et ma génération de manière beaucoup plus large sur le climat. Et je suis vraiment ravie d'être parmi vous et d'être à la table aussi.
Et nous sommes ravis de vous avoir également parce que, effectivement, comme vous le disiez, c'est cette génération-là qui va faire la transformation. Je pense que vous envoyez aussi un message important qui est l'idée de enfin prendre en compte les choses qui ne peuvent pas être comptées, mesurées. Les émotions, tous ces éléments-là qui font qu'effectivement on passe à l'action. Il faut peut-être qu'on revoie un peu nos logiciels de référencement là-dessus. Anne Barr, donc, vous animez le Women in Europe for a Common Future. Est-ce que vous voyez bien votre rôle de coalition des femmes dans cette mobilisation? Qu'est-ce que vous pensez de ce texte qui est proposé aujourd'hui et de l'ensemble de cette dynamique?
Oui, bonjour. Donc, est-ce qu'on m'entend? Effectivement, donc je représente WSF, qui est une des ONG membres de la coalition Women and Gender Constituency, ou de la Constituency, présente en tant qu'observateur au sein de la Convention pour le changement climatique. Nous sommes contentes, effectivement, d'avoir été associées à cette dynamique territoriale. Nous soutenons tout à fait la nécessité que l'accord de Paris prenne en compte cette dimension territoriale qui est essentielle. Il est vrai que les décisions se jouent à l'échelle territoriale. Et pour nous, il est absolument essentiel que les femmes soient impliquées à l'échelle territoriale. Aujourd'hui, on a pu le voir, et nous avons été présentes dans les ateliers au sommet de Lyon. Il y a une volonté d'inclure les femmes, mais je dirais que les moyens ne sont pas encore tout à fait présents pour que les femmes, notamment des pays du Sud, puissent activement participer à ces rencontres et également puissent apporter leur point de vue en étant entendues. Donc il y a encore un travail à réaliser pour cela. En tout cas, aujourd'hui, ce que nous saluons, c'est que il y a une reconnaissance dans la déclaration d'aujourd'hui des droits humains, du respect des droits humains, de l'égalité homme-femme et également des droits des peuples autochtones, autant de points que la Women and Gender Constituency défend ardemment et nous espérons que nous le retrouverons dans l'accord final de Paris, également dans les parties opérationnelles du texte, parce que ce n'est pas encore acquis. Ce que nous saluons également, c'est l'inclusion et le lien qui est fait dans le texte d'aujourd'hui entre la Convention sur le changement climatique et les objectifs du développement durable. Parmi les objectifs du développement durable qui ont été validés au mois de septembre à l'ONU, il y a l'égalité homme-femme. Et il ne faut pas considérer aujourd'hui que cette égalité homme-femme est réalisée dans les faits. On a encore beaucoup à faire. Dans beaucoup de pays, les droits des femmes ne sont pas à l'égalité avec ceux des hommes. Et dans beaucoup de pays également, les femmes n'ont pas accès à la prise de décision, ne sont pas consultées et ne sont pas partie prenante des actions, notamment les actions pour lutter contre le changement climatique. C'est donc pour nous quelque chose qui doit être opérationnalisable. Enfin, je dois donner également quelques éléments critiques. Ça me paraît très important. Si on veut être inclus dans une dynamique, il faut pouvoir exprimer toutes les positions. Sur l'agenda Lima-Paris, l'agenda de l'action Lima-Paris, la Women and Gender Constituency, avec de nombreuses autres ONG, a exprimé des réserves quant aux critères d'inclusion d'initiatives. Nous considérons qu'il y a les bonnes et les mauvaises solutions pour lutter contre le changement climatique. Parmi les bonnes solutions, nous considérons que les solutions décentralisées, les solutions qui sont véritablement abordables pour les populations les plus pauvres, donc avec des technologies accessibles, à des prix abordables, et donc qui vont bénéficier notamment aux femmes les plus touchées et les plus vulnérables par rapport au changement climatique, sont les bonnes solutions. Et donc, il nous paraît vraiment essentiel que, dans le cadre de cet accord, les critères et la gouvernance soient vraiment revus. Et pour l'instant, nous ne pouvons pas y apporter notre soutien inconditionnel.
D'accord. Donc, c'est un message aussi pour voir comment on peut prendre en compte ces remarques particulières, ces contributions particulières.
Absolument.
De façon à améliorer, finalement, le fonctionnement de cette coalition multi-acteurs.
Tout à fait.
Jorge Furagaro, vous nous avez présenté tout à l'heure les travaux de l'atelier, mais au-delà de ces travaux de l'atelier, est-ce que vous vous reconnaissez en tant que représentant des peuples indigènes dans ce texte, et vous avez l'impression qu'effectivement cette liaison se fait suffisamment bien? Está bien?
Bueno, me parece importante el tema de la declaración porque recoge las diferentes posiciones de la sociedad civil para combatir el cambio climático. Pero sí quisiera resaltar cómo podríamos los pueblos indígenas articular con las diferentes acciones que se vienen presentando con los diferentes municipios. A mí me parece que hay que empezar a interlocutar, hay que pensar a hacer acciones puntuales para que los pueblos indígenas puedan seguir conservando los bosques. Los bosques de los pueblos indígenas amazónicas están en peligro por las grandes concesiones de los estados, y son los estados los que están discutiendo en este momento cómo combatir el cambio climático cuando ellos son los primeros que dan las concesiones mineras, petroleras, de deforestación al interior de los pueblos indígenas sin respetar los derechos de los pueblos indígenas. Dentro de estos procesos sí queremos insistir. El tema de poder empezar a crear un documento de políticas que tienen los pueblos indígenas para que se pueda respetar al interior de los territorios. Como por ejemplo, el tema de el ordenamiento territorial de los pueblos indígenas, con una visión de los pueblos indígenas, no de los estados, no de los municipios, no de los gobiernos, sino cómo los pueblos indígenas al interior de su territorio puedan conservar su territorio para la pesca, para la agricultura, para sus usos cotidianos de medicina tradicional, para la caza, para conservar el ecosistema. Eso es algo que ya debe estar legislado a través de los estados, pero los estados no han querido reconocer ese trabajo, esa ley, ese principio de respeto que debe haber para un plan de manejo territorial al interior de los pueblos indígenas. En ese sentido, creemos que y consideramos de que el tema de la participación de los pueblos indígenas en los diferentes espacios, precisamente pensando un poquito más para la COP22, estamos hablando de 400 pueblos indígenas con diferentes lenguas, diferentes costumbres, diferentes maneras de pensar en nuestros territorios. Recoger esos pensamientos es difícil. A mí me parece que sí es importante, como mínimo, por ejemplo, traer uno por cada uno de los países donde hay cuenca amazónica para que puedan empezar a concretar pensamientos, porque es que nosotros en esta región tenemos 5 lenguas diferentes: el español, el portugués, el francés, el holandés y el inglés. Entonces, mire que entre nosotros mismos como pueblos indígenas a veces nos toca hacer mucho trabajo de poder entender, y son diferentes culturas que han colonizado esta región también. Entonces, muchas culturas se impone por encima de esto, y con esto, ¿cómo podríamos nosotros empezar a defender los derechos de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, que todavía no tiene contacto ni con nosotros mismos, que somos pueblos indígenas que estamos en su territorio, mucho menos con las grandes minerías que están llegando en estos territorios y están afectando la pervivencia de los pueblos indígenas en su territorio?
Muchas gracias. on pourrait imaginer, podría ser una meta de la, del seguimiento de este trabajo, que había una experimentación de un convenio de este tipo que como lo propone. L'idée serait peut-être de voir comment le suivi de ce sommet pourrait expérimenter un accord de ce type articulant les attentes des populations indigènes, les attentes du développement territorial, y compris en mobilisant les entreprises qui pèsent sur ces territoires. Je vais maintenant passer la parole à Lasse Galvani-Boone. Vous êtes le représentant du Climate Action Network. Et un petit peu même question, vous avez une vision très macro des engagements internationaux. Est-ce que ce type d'engagement, ce type de plateforme vous semble aller dans le bon sens pour lutter contre le changement climatique dans les deux composantes mitigation et adaptation ?
Hello, everybody. Thank you for this opportunity to speak. And I agree with much of the statements that have been made so far. And to your question, yes, I do believe that a micro entrance and perspective is increasingly important. When you look at the increasing urbanization, for instance, in a very short time, most people are going to be living in cities, and these are becoming superpowers within the nations. C40 is here today. Like, if you take the C40 group, that have collectively representing 25% of the global economy, 25%. So it's not small. So when we are able to make changes within cities, those changes are really, really significant. And just another point, Climate Action Network, we have 950 member organizations in more than 150 countries. And of course, we work very closely. Our members work very closely with the different constituencies in those different countries, and a lot of those are at a municipality level. And I think that's what's interesting about talking about non-nation engagement is that it's a constituency already. If you have a non-nation municipality, even being a big city or a smaller municipality, it is a community where people get together. And this is what I find so interesting about this initiative, this multi-stakeholder initiative, that we take all these people that already are living the same places, and we take all the people that we represent, our respective constituencies, and we try to, at our level, to bring them together as well. So I think it's something that's going to be reinforcing that. And cities particularly already showing the way. You talked about how things can be dealt with at a micro level. Mm-hmm. Like many cities like Copenhagen and Munich, for instance, have committed to go 100% renewable in a very short time, to 2030 for Copenhagen, for instance. And this is in initiatives like this that makes a crucial difference and actually makes big changes. When you see cities around the world getting together and making decarbonization projects and a change to 100% renewable energy, that is showing the way, they're showing that leadership that is needed at a national level, which is also the basis of the C40 in the first place. And also, if you want to contextualize it a little bit to the macro level, on Monday, some of you will have seen that the Climate Vulnerability Forum, they signed a declaration, 43 nations that are most vulnerable in the world, they asking for a swift transition and decarbonation and a swift transition to 100% renewable energy to be able to stay below 1.5 degrees, not 2 degrees, 1.5. And what they're really expecting, what they're hoping for, of course, is from a solidarity package, so generally getting solidarity from the most developed nations to ensure that they support this and they take their responsibility of the package as well. And I think cities here particularly, and municipalities, but particularly cities, can play a very big role, because many of these cities are already in danger. They are the vulnerable ones, like Amsterdam, Copenhagen, what have you, New York. And if municipalities take the lead on trying to do specifically adaptation, but also on mitigation, that's sending very strong signals to the national governments that they cannot ignore. So I think that bottom-up approach is really, really important. And also, just want to point to the fact that this year we've seen like a really, really massive multi-stakeholder engagement standing together, like at a people power perspective. Some of you will have seen that we had some marches going on around the world, and actually, I can reveal that it was the biggest climate march in history that took place on Sunday, this Sunday. just passed now. And that included people from all walks of life. It's indigenous people, it's gender issues, it is development. And particular development, a lot of you mentioned the SDGs, development has been increasingly important in the climate change agenda. And Cannes has also been working very closely with the respective leaders in this field. From the basis that, you know, safeguarding climate for the future is a prerequisite for a sustainable development and eradicating poverty. It's as simple as that. And like ITU normally says, you know, there are no jobs on a dead planet. And that's because we're seeing lots of the unusual suspects really stepping into the scene. And again, I think the reason I'm mentioning this is because we at a municipality level, with our members, with our different constituencies, are working very closely together, and we have that responsibility and the ability and the responsibility to do this very strong bottom-up approach and to take the lead and show the national governments what actually can be done, what they're failing to do at a macro level, and we can do that at a micro level, all the way from installing PV panels in a small school, in a municipality in any country, all the way to having cross non-national agreements like this one. In terms of the declaration specifically, we think it's a very good step in the right direction. We would like to see a little bit more focus on the long-term goal and a stronger emphasis on the necessity of decarbonation and a just transition to 100% renewable energy. But we're very happy about this and happy to be part of this initiative. Thank you.
Merci beaucoup. Je redonne la parole à Ronan Dantec pour justement l'adoption finale de cette déclaration.
Bien, les délais sont très courts puisque vous savez, on a dû réduire de moitié le temps de cet événement et je vous demanderai de quitter la salle rapidement parce que l'événement suivant viendra assez rapidement. Alors, cette déclaration a été une décision collective lors de la dernière réunion du comité de pilotage après Lyon. Il me semblait important d'avoir une expression collective et je remercie vraiment les intervenants de l'ensemble de leurs déclarations. Néanmoins, et je suis toujours extrêmement soucieux de cela, il est évident que les organisations n'ont pas le temps de revenir vers leurs membres pour vérifier que cette déclaration leur correspond. Néanmoins, je crois que de ce que nous avons entendu, nous voyons qu'il y a un consensus. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une adoption par acclamation des présents, mais la communication qui sera faite dira que ça ne réengage pas à titre individuel les organisations signataires puisqu'elles n'ont pas le temps matériel de se retourner vers l'ensemble de leurs membres pour les réseaux globaux ou leurs conseils d'administration. Je pense que démocratiquement, c'est la manière dont nous pouvons procéder. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose, sauf si certains sont vraiment en désaccord et qu'ils le disent maintenant, je pense qu'il y a effectivement l'espace pour cela, d'adopter cette déclaration par acclamation avec cette précision importante pour un certain nombre d'organisations à ce stade. Et je vous remercie vraiment de votre mobilisation et je crois que notre dynamique se poursuit. Et rendez-vous à Nantes.